Inter, le 6-9 du week-end.
8h moins le quart, on retrouve la main verte d'Alain Baraton. Salut Alain.
Quel plaisir que de vous retrouver. J'ai eu la chance d'œuvrer aux côtés d'Amélie Perrier et de Laetitia Gaillet en juillet et en août. Eh bien, vous m'avez quand même manqué. Beaucoup manqué. Patricia, je suis très heureux de vous retrouver. Avoir retrouvé Laurence Thomas, Bernadette Chamalas, bien sûr, et vous-même, mon cher Eric Delvaux, c'est une joie véritablement sincère et grande.
Partagez. Nous sommes ravis de vous retrouver, Alain Baraton, pour cette nouvelle session du 6-9 week-end. On parle des saints ce matin. Alors, les journalistes, les écrivains, ils ont comme saint patron François de Sales. Hein.
Et oui, et je suis presque persuadé qu'il vous serait incapable maintenant de me dire quel jour vous fêtez chaque année, eh bien, votre saint patron.
Des journalistes, c'est début janvier, je crois.
C'est le 24 janvier.
Début d'année, oui,
c'est ça. Et oui, et si vous ne le savez pas, c'est simple, c'est que les saints n'ont plus la cote, excepté peut-être Rita, que l'on prie pour les causes
désespérées.
Et oui, et saint Fiacre.
C'est pour ça que vous la priez souvent pour moi.
Tout le temps, mais pas du tout. Pas du tout.
Saint Fiacre, qui est évidemment, puisque c'est le sujet de votre chronique, le saint patron des jardiniers, j'imagine.
Eh oui, et il se fêtait vendredi, hier. Et autrefois, à époque bénie, les jardiniers qui travaillaient dans les administrations bénéficiaient le 30 août d'une journée exceptionnelle de repos.
Alors, qui était ce Saint Fiacre? D'où vient-il?
Il est né en Angleterre et en l'an 610, et il choisit très tôt pour vivre les ordres religieux. Il a tout juste 17 ans, il est moine, et il décide alors de s'installer à Meaux, dans l'actuelle Seine-et-Marne, pour y cultiver la terre. Il n'a pas un sou, mais il arrive toutefois à convaincre son évêque de lui donner une modeste parcelle de forêt.
Ouais, et notre homme d'ailleurs est un sacré travailleur. Enfin,
sans aucun doute, quand on sait qu'en une seule journée, il creuse autour de ses terres un fossé pour isoler son domaine des animaux sauvages. Avec son bâton, un simple bâton, il coupe des arbres par centaines et libère les terres. Enfin, après avoir débarrassé le site des broussailles et retourné la terre, il cultive le jardin en y créant un potager et un verger. Sa production est si belle qu'il peut même nourrir tous les pauvres qui sont tous les jours nombreux à venir le visiter.
Fiacre a produit aussi pas mal de plantes médicinales.
Cet homme n'a que des qualités, il est aussi guérisseur. Et ses potions et crèmes font des miracles, en particulier pour soulager le mal de Saint Fiacre, autrement dit, les hémorroïdes. Comme pas de peau, moi, que mon patron à moi, ce soit toujours un truc. Enfin, passons.
Faites-vous plaisir.
Voilà. Les résultats que Saint Fiacre obtient sont si extraordinaires que les siècles suivants, il est bien vu d'offrir aux nouveau-nés des médailles à l'effigie du saint homme pour les préserver des crises tant redoutées.
Ouais, d'ailleurs, cette croyance a perduré longtemps.
Hein. Voilà, 700 ans plus tard, on y croit toujours comme Louis XIII, qui porte autour du cou le médaillon et il ne s'en sépare jamais, ou encore son épouse, Anne d'Autriche, qui fait donner une messe en son honneur pour le remercier de la naissance du futur Louis XIV.
Alors, Saint Fiacre, saint patron des jardiniers, est tellement populaire que son nom va même être donné un jour à un hôtel parisien.
Et oui, en plein cœur de la capitale, rue Saint-Antoine. Et c'est d'ailleurs ici, sous l'enseigne du saint, que l'on stationnait les premières voitures à cheval, chargées de mener les voyageurs dans les rues de Paris, des équipages appelés donc tout naturellement des fiacres.
Alain Baraton, à présent vos conseils aux auditrices, auditeurs de France Inter. On commence avec Bernard qui vous demande, comment sait-on que les pommes de terre sont bonnes à être sorties de terre?
Oui, c'est pas sot comme question, parce qu'effectivement, vous plantez les pommes de terre au printemps.
Et puis ça germe.
Pierre Mondet, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe sous terre? Alors déjà, les laisser trop longtemps peut encourager les petits mulots et autres bestioles à venir s'en délecter, et il faut à un moment donné les ramasser. Eh bien, c'est uniquement quand le feuillage est sec. Attendez que le feuillage soit véritablement sec pour les arracher, et faites comme tous les vieux jardiniers qui connaissent le truc, bah commencez très rapidement début août à arracher un ou deux pieds, vous constatez par vous-même si elles sont de belles dimensions. J'en profite pour rappeler que les pommes de terre qui sont en contact avec la lumière sont vertes et que les pommes de terre vertes sont toxiques, on ne les mangera donc pas. Mais donc attendez que les feuilles soient sèches avant de récolter les pommes de terre.
On les garde pas à la lumière donc.
Non, toujours à l'obscurité. Toujours à l'ombre, ouais. On n'oublie pas de les faire, comment dire, de les dégermer, je ne sais pas si le terme se dit. Et juste pour vous dire que l'an prochain à Versailles, j'ai la chance d'être entouré de jeunes gens extraordinaires.
Heureusement qu'ils bossent.
Oui, non mais ils bossent et ils ont des idées. Et une équipe en charge du jardin français de Trianon a eu l'idée, c'est pour l'an prochain, de remettre dans les parterres des pommes de terre pour que les visiteurs découvrent la fleur de la pomme de terre, car elle fleurit exactement comme Louis XVI lui-même, au même endroit, avait découvert les fleurs de la patate.
Paul, c'est une belle idée, hein. C'est une bonne idée. Paul vous demande s'il faut garder les fleurs sur un pied de basilic.
Alors non, alors déjà il faut savoir que quand vous plantez du basilic en plein soleil, il fleurira davantage. Comme beaucoup de plantes d'ailleurs. Il y a une question qui vient souvent, mes rosiers ne fleurissent jamais, pourquoi? Parce qu'ils sont à l'ombre, ne cherchez pas. Le basilic, eh bien c'est pareil, quand il est en plein soleil, il est heureux et il fleurit beaucoup. Mais on ne peut pas, quand on est plante, produire de manière importante feuilles et fleurs. Il faut faire un choix. Donc je conseille effectivement de pincer les fleurs. Pincer signifie qu'avec les ongles, on coupe la tige qui porte les feuilles, les fleurs. Ça permettra à la plante de se consacrer uniquement à la production des feuilles et de reproduire de nouvelles feuilles, ce qui est quand même l'intérêt du basilic.
Séverine aimerait savoir, Alain Baraton, s'il est encore possible de semer des poireaux.
Eh oui, c'est possible, mais oui, j'allais dire oui, attendre la fin août. Nous sommes fin août, on est même le dernier jour du mois d'août.
Comme
oui, c'est
dirait.
C'est tout à fait possible. On pourra donc les semer maintenant. On va les repiquer, allez, courant novembre approximativement, et on pourra les récolter d'avril à juin. J'en profite également pour rappeler, parce qu'on m'en a fait un peu le reproche, à juste titre, mais quand je parle de date de semis, je parle en moyenne, et la moyenne, d'une manière horticole, c'est la région parisienne. Il est évident qu'il y a toujours des décalages de climat entre le sud, l'extrême sud et l'extrême nord. Donc quand on parle de telle ou telle période pour semer, eh bien c'est pour la région parisienne. Quand on parle de printemps, on rajoute 15 jours pour les gens du Nord et on en supprime 15 pour les gens du Sud. Donc toujours la moyenne, bien évidemment.
Cécile voudrait savoir s'il est vrai qu'il existe un sens pour planter des bégonias à massif.
Eh bien oui, on ne s'en rend pas compte, mais les deux feuilles d'extrémité, c'est-à-dire que on décrit le petit pied de bégonia, il produit des feuilles et des fleurs. Et les deux feuilles les plus au-dessus ont des pointes. Et ces pointes ont un sens. Les jardiniers les appellent des oreilles d'ailleurs. Eh bien, les fleurs vont toujours du côté des feuilles. Donc pour que le massif soit joli, planter de manière à ce que l'ensemble des bégonias soit dirigé dans la même direction, à savoir suivez la direction qu'indiquent les feuilles.
Ça paraît du bon sens, mais faut-il le savoir.
Et c'est ce qui fait la beauté des jardins publics où les jardiniers le savent.
Votre dernier petit conseil, lecture pour le week-end.
Et les bouquins qui sont faits pour se faire plaisir, ça c'est pour apprendre. Plantes vivaces par Didier Villery, qui est un pro dans la question en question. Ulmer, spécialiste comme maison d'édition de tout ce qui est végétal. Donc, oui. Plantes vivaces, Didier Villery, c'est un ouvrage de référence qui vous permettra de choisir avec subtilité tout ce qu'il faut planter dans votre jardin.
Merci Alain Baraton et à demain.